Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bienvenue dans On est fait pour s'entendre, votre émission, celle qui vous écoute et qui vous donne la parole. Voilà 10 ans que nous réfléchissons tous ensemble, chaque jour, sur cette antenne. Et comme la der des der de l'histoire d'On est fait pour s'entendre sera vendredi prochain, eh bien profitons-en et faisons le plein. Aujourd'hui, les kilomètres à pied n'useront pas notre enthousiasme, bien au contraire. Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore, a écrit Jean Giono. Alors la marche, c'est une activité physique naturelle, bonne pour le corps, on le sait, mais elle fait aussi beaucoup de bien au mental. Et oui, c'est bon pour le moral, comme dirait l'autre. Alors avons-nous tous conscience du pouvoir de la marche? Comment permet-elle de se reconnecter à soi? Dans un instant, on va accueillir nos invités, mais pour l'heure, c'est Flavien qui me rejoint. Bonjour Flavien.
Bonjour Flavie.
Bienvenue sur RTL, ça va très bien et vous?
Merci, bien bien.
Bien bien. Alors dites-moi, vous avez toujours aimé marcher, faire de la rando? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, vous?
Exactement, moi j'ai toujours adoré marcher. Ma mère m'assure que j'ai commencé à marcher à l'âge de 1 an.
Ouais.
Non, blague à part, oui, j'ai toujours aimé partir en randonnée et récemment j'ai traversé la France à pied.
Génial.
De Dunkerque à Perpignan, enfin pas Perpignan, à la borne 513 dans les Pyrénées, le long de la Méridienne Verte.
D'accord, donc j'imagine que vous aviez préparé votre voyage, on y reviendra tout au long de cette émission pour ceux qui voudraient s'y mettre. Mais pourquoi ce trajet-là en particulier ?
En fait, c'est sur cette méridienne verte a été planté des arbres, 10 000 arbres pour les cérémonies de passage à l'an 2000. Et cette méridienne verte, en fait, elle a un aspect culturel, elle a un aspect intemporel. Et j'ai trouvé que c'était une bonne tentative de réflexion du temps, une bonne tentative de découvrir la France d'une manière un peu originale.
Eh ben, on en arrive à notre sujet. En fait, marcher, c'est penser.
Voilà, exactement.
On ne fait pas que marcher en réalité. Et c'est ça qui est très intéressant et que l'on retrouve dans tous les témoignages qui nous arrivent, Flavien. C'est que marcher, c'est pas simplement la démarche physique, c'est une démarche intellectuelle aussi.
Tout à fait. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que, de Rousseau, je crois, qui dit que les meilleurs moments où j'ai le mieux pensé, c'est les longs voyages que j'ai fait seul avec moi-même. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le long voyage à pied.
Alors, évidemment, ce long voyage à pied, on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain, j'imagine, Flavien.
Non, il faut un peu se préparer. C'est vrai qu'il faut quand même être physiquement capable, quoi, parce que c'est quand même beaucoup d'heures d'effort. Après, il y a la planification un peu logistique, donc tout ce qu'on va apporter avec soi, essayer de ne pas apporter de superflu, pas non plus oublier de choses qui vont nous manquer, donc c'est arriver à une certaine sobriété. Ouais. Et puis après, il faut se lancer.
Est-ce que c'est une épreuve ?
Il y a quand même une épreuve, parce que c'est, ouais, du moment qu'on ne l'a jamais fait, ça reste une épreuve. Mmh. Après, tout au long du voyage, en fait, le mental supporte le physique supporte le mental, et puis on y arrive.
C'est intéressant parce que j'entends effectivement par là pas simplement l'épreuve physique mais l'épreuve aussi mentale, parce qu'il se passe quelque chose, paraît-il, pour ceux qui marchent et qui marchent beaucoup ou qui marchent longtemps ou qui marchent seuls. Il se passe quelque chose dans l'esprit et dans le corps d'assez inédit. Comment est-ce que vous pourriez décrire cette sensation ?
Mais moi, à force d'analyser la marche et l'acte de marche, je trouve que c'est une triple expérience, en fait. C'est à la fois physique, sensoriel et de liberté.
Ouais.
Physique parce qu'on fait un effort, on est là pour se dépasser. Sensoriel parce qu'en fait, on est présent à son environnement en permanence. Et aussi, on remarque que, par exemple, j'ai fait des petites expériences comme ça, si on se cache les yeux, eh bien, on va mettre plus à l'usure notre oui. Parce qu'on va extraire du paysage des indices pour nous permettre de continuer à cheminer. Et l'expérience de liberté, c'est parce qu'en fait, on peut aller où on veut, sans dépendre de rien ni personne. Donc, c'est fabuleux.
C'est intéressant parce qu'il y a un côté méditatif, hein,
oui, aussi.
Ici, hein, dans la marche. On accueille notre invité qui est en studio. Bonjour Julien Charles.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes thérapeute, vous êtes auteur du livre Compostelle Thérapie aux éditions Larousse, que voici pour ceux qui nous suivent sur l'application RTL et sur RTL.fr. Julien Charles, vous comprenez ce que nous explique Flavien, parce que vous avez marché.
Oui, bien. Alors moi, je ne suis pas bon élève, hein, comme Flavien, parce que moi, je ne me suis pas préparé du tout.
Ouais.
Mais il y a différents styles de marche, hein. Chaque chemin est unique. Moi, je suis plutôt parti la fleur au fusil et donc j'ai fait exactement toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre.
Ça,
en
on en parlera. Mais
voilà.
Néanmoins, vous avez découvert aussi les vertus de la marche à cette occasion.
Ah oui, moi j'ai vraiment découvert les vertus de la marche puisque je ne marchais pas auparavant,
ouais.
À part pour faire le métro, mon lieu de travail. Et donc effectivement, j'ai découvert ce processus qui est un processus d'abord physique, puis cognitif. Quelque chose se passe. Alors moi, j'ai établi trois phases. La première phase qui est une phase de dépollution.
Ouais.
La deuxième phase.
Parce que vous parlez du grand nettoyage de Compostelle, hein.
Oui, c'est ça, le grand nettoyage. La phase de dépollution qui est un petit peu la plus compliquée, mais peut-être que vous voudrez revenir ensuite. Qui est la phase où, en fait, tout ce qu'on a enterré, en fait, hein, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on a laissé derrière nous, remonte, en fait, un peu comme de la boue, vous savez, qui remonte à la surface. Donc c'est pas très agréable. C'est un peu le début d'un grand dialogue entre soi et soi. Pénible et douloureux, mais comme vous
mais
dites,
nécessaire.
Ensuite, les kilomètres, la durée faisant, il y a quelque chose qui se passe, ouais. Il y a quelque chose d'assez magique et mystérieux qui décante. Voilà, il y a un nettoyage qui s'opère et à un moment, vous savez pas comment ni pourquoi, bah vous vous réinventez et vous vous sentez plus léger, détendu et prêt à être émerveillé par les rencontres, la nature et le reste du voyage.
On va se retrouver dans un instant, Flavien, vous restez avec nous. David Le Breton, qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, va nous rejoindre aussi. La marche, c'est jusqu'à 15h30 en direct sur RTL. A tout de suite, Flavien.
A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors, on s'intéresse à la marche aujourd'hui. Beaucoup de messages qui nous arrivent. Je marche une demi-heure autour de chez moi, chemin de campagne, 2 à 3 fois par semaine pour décompresser, me retrouver, laisser aller et venir mes pensées, nous écrit Sylvie. Seule, à mon rythme, au son de la nature, ça fait un bien fou au corps et à l'esprit. Je me sens alors plus forte pour affronter la journée. Sinon, randonnée avec mon conjoint, où il s'agit plus d'un partage et en même temps un dépassement de soi et fort à la montée. Marcher, c'est se recentrer sur soi. C'est prendre conscience des belles choses qui nous entoure. Essentiel, la marche, nous écrit Karine, un besoin quotidien pour évacuer et recharger les batteries et de préférence seul. On en parle aujourd'hui donc avec Flavien qui est en ligne avec nous. Flavien qui marche beaucoup et qui a fait donc la randonnée le long de la Méridienne Verte. C'est le récit d'ailleurs de sa traversée de la France à pied qu'on peut retrouver aux éditions Favre. Et puis nous sommes également avec Julien Charles qui est thérapeute et qui lui a fait le grand nettoyage de Compostelle. Ça devient un ouvrage, Compostelle Thérapie, aux éditions Larousse. Et on accueille le professeur de sociologie David Le Breton. David, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Votre livre, c'est Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, en poche aux éditions Metelli. Alors, vous avez entendu les messages que nous ont envoyés nos auditeurs sur Facebook, ce que nous écrit Fabien aussi. Cette idée de la reconnexion à soi, comment est-ce qu'on explique ça?
Ah, parce que quand on commence à marcher, on est dans une disponibilité envers les autres, envers le monde. On cesse d'être chez soi et donc enfermé entre les quatre murs de chez soi où on rumine la plupart du temps un certain nombre de nos soucis et où de toute façon on reproduit inlassablement les mêmes choses de jour en jour. Là, quand on marche, on va vers l'inconnu, on va vers l'aventure, on va vers l'homme ou la femme que nous ignorons être encore. Parce que bien entendu, notre chemin sera jalonné de rencontres, de découvertes, de curiosités également. C'est un peu comme si marcher était une manière de se renouveler, une manière de respirer, de reprendre son souffle, de calmer le jeu aussi. C'est pour ça que très souvent, effectivement, la notion de guérison revient. Bon, on en reparlera sans doute pendant toute l'émission, mais pour moi, la marche est une forme majeure, en effet, de la guérison.
Alors, cette idée de la guérison, c'est une forme de guérison, effectivement, de l'esprit. Julien Charles, vous nous expliquez que, en marchant, d'ailleurs, quand vous parlez d'un grand nettoyage, c'est pas un hasard non plus, hein, parce que le livre, c'est quand même l'histoire, c'est l'histoire d'un mec,
hein,
qui s'appelle Julien, qui a 37 ans, qui est bloqué dans une vie qui lui convient pas et qui décide un jour d'aller marcher. Et effectivement, cette idée du grand nettoyage, c'est quoi? Cette phase, en fait, qui n'est pas facile, hein. Moi, je suis une adepte du silence et de la retraite, parfois. Dans le silence. Et je sais qu'il se passe aussi dans cette démarche-là, cette décantation dont vous parlez. Ça n'est pas simple d'aborder la marche, puisqu'on est dans une idée aussi de guérison, comme vient de nous le dire David Le Breton, en sachant tout ce qu'on va devoir affronter personnellement. Non pas dans la marche, mais de soi à soi.
Oui.
Quand on part seul.
Alors, déjà, moi, je me permets de nuancer guérison. Je dirais plutôt. Que ça permet de cicatriser plus rapidement.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Alors effectivement, la solitude, bon, la solitude, ça a été un vrai défi, enfin pour moi, puisque j'étais assez entouré dans ma vie de tous les jours, et donc les premiers jours seuls, ça a été un choc. Ça a été un choc. Puisque on rencontre des douleurs physiques, on rencontre voilà quelques petits désagréments et il y a personne pour se plaindre, voilà. Il y a personne
qui appeler, pour entendre, voilà,
personne sur qui se reposer.
D'accord. Et puis il y a un autre mec qui est soi.
Il y a un autre mec qui est soi
et qui va pas très bien.
Non, exactement. Et puis on se rend compte quand même que les compagnons, en fait, ce sont les arbres, les nuages, les rayons du soleil, et là tout commence à s'éclairer et on se rend compte que finalement on n'est pas seul en plein milieu de tout ce vide, parce qu'il y a beaucoup de vivants. Et donc ce dialogue qui a commencé entre soi et soi, qui était au début pénible et douloureux, voilà, devient un peu plus agréable. Voilà.
Est-ce qu'on a retrouvé David Le Breton ? Vous êtes toujours là sur cette antenne, David ? On avait des petits problèmes de téléphone. C'est intéressant ce que nous explique effectivement Julien Charles, cette idée à un moment donné de se retrouver soi avec soi, ce qui parfois effectivement est difficile. Alors lui ne parle pas de guérison, mais de cicatrisation plus rapide de nos blessures. Chacun effectivement trouvera son terme pour en parler, mais effectivement c'est une démarche globale d'aller marcher.
Oui, pour moi c'est une démarche globale effectivement, parce que d'abord c'est la remise en mouvement du corps, donc la remise en mouvement également de l'esprit. C'est une manière de voir les tracas qui nous traversent sous un autre angle finalement. Dans la mesure où on a l'esprit qui bat la campagne en permanence, où on pense à d'innombrables faire auxquels on n'aurait pas du tout songé, mais finalement on trouve des solutions de façon très inattendue. Donc il y a une forme en effet de dépouillement dans la marche, une espèce de purification intérieure, une simplification, parce que très vite on apprend évidemment à trier l'essentiel de l'accessoire, et bon nombre de nos anciens tracas deviennent soudain bien dérisoires, et on les traverse. Donc je pense que ce qui fait l'émerveillement de la marche, qui nous fait tellement de bien dans la marche, c'est cette conjugaison entre les bienfaits physiques, entre guillemets, la mise en mouvement permanente du corps, des muscles, etc., mais avec un effort évidemment que chacun décide, et puis en même temps la mise en liberté de l'esprit, qui se balade, qui va son chemin, qui entame des dialogues, qui regarde des oiseaux, des animaux, des éléments de la nature, etc. Et c'est cette espèce de détente intérieure qui fait qu'en effet on retrouve le goût de vivre, par exemple, qui avait pu nous échapper pendant un moment.
Flavien, ça vous parle tout ça ?
Oui, alors ça me parle, je comprends. Après, moi, en ce qui me concerne, je n'y suis pas allé pour une thérapie, mais plutôt pour une curiosité, une obligation d'observer le monde ou de se comprendre. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est aussi issu du fait que quand on marche, on voit du contraste. On voit du contraste dans les couleurs, parce qu'on suit le soleil tout au long de la journée. On voit du contraste dans les rencontres avec les gens et dans les émotions et les sensations. Et j'ai le souvenir d'avoir écouté un podcast d'une personne qui était restée dans une grotte dans les années 70 pendant une soixantaine de jours. Et il disait que justement, ce qui lui manquait, c'était le contraste dans les couleurs, dans la nourriture. Et parce qu'il était dans sa grotte, bien évidemment. Et là, quand on marche, quand on est disponible à son environnement, c'est exactement ce qu'on a, quoi.
Est-ce qu'on est dans l'évermaillement d'une forme de découverte aussi, Flavien ? Parce qu'on ne la voit pas, la nature, vous voyez ce que je veux dire, mais même quand on a le sentiment certain de la voir, enfin on en parlera avec Julien Charles tout à l'heure, mais qui était un bon parisien, qui prenait son métro pour aller bosser, et c'est vrai que cette nature, on a parfois l'impression de l'appréhender, on la voit derrière la vitre de notre voiture ou derrière la vitre d'un RER ou d'un train. Est-ce que tout à coup on est dans une sorte d'évermaillement presque enfantin ?
Oui, tout à fait. Et l'expérience un peu peut-être summum là que j'ai vécue là sur ce sujet-là, c'est j'ai passé plusieurs nuits en forêt et au fur et à mesure que le soleil tombe, en fait, la forêt se réveille. Oh, et là, tous les bruits deviennent un peu plus angoissants parce qu'on les connaît pas forcément, on est habitué à dormir dans un lit. Et notamment une fois où je me suis réveillé face à face avec un renard. Alors il n'y a rien d'exceptionnel peut-être, mais c'est quand même.
Ça m'arrive pas tous les matins quand même, hein, Flavien, oui. Pour être honnête.
Et là, on s'est regardé, et puis après, j'ai fait un mouvement, il est parti, et puis en fait, c'est la rencontre de deux mondes qui ne sont pas habitués à se côtoyer et que je n'aurais pas vécu à un autre moment, quoi.
Vous restez avec nous, Flavien ?
Oui, bien sûr.
À tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors, on parle de la marche aujourd'hui. C'est vrai qu'un Aretha Franklin, quand même, Julien Charles, quand on marche, c'est en montée, quoi.
Ouais, c'est en montée, c'est bien, mais ça dynamise un peu, ça fait accélérer le pas.
Alors, tiens, vous nous parliez il y a un instant, Flavien, de cette connexion à la nature, de cette rencontre avec le monde parfois nocturne d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'on a déjà du mal à être en forêt parfois pour certains. Donc en forêt la nuit quand on dort seul et qu'on entend les bruits finalement de la forêt qui s'éveille, c'est quelque chose. Rencontre avec un renard, bref, vous avez vécu énormément de choses et on sent que vous êtes riche de ça, Flavien. Vous faites un parallèle, vous, Julien Charles, avec une reconnexion à l'enfance, au-delà même de soi-même, c'est on se reconnecte à l'enfant qu'on a été.
Oui, à l'enfant, moi j'ai retrouvé le goût de m'amuser en fait. Je compare ça un peu à une maison d'enfance qu'on aurait oubliée. Vous savez, il y a des choses comme ça qui restent en mémoire mais qu'on oublie. Et par exemple, moi petit, j'adorais parler aux animaux. Et sur le chemin, je me suis retrouvé tout seul au début, donc je me suis mis à parler à des vaches. Elles semblaient très intriguées, mais je me racontais qu'elles m'écoutaient, et j'ai pris un certain plaisir à ça. Et puis il y avait des pissenlits aussi, petits, je prenais des pissenlits, je soufflais dessus, et j'avais oublié ça. Et en fait, c'est comme s'il y avait une mémoire qui était bien encodée et qui avait explosé en fait sur le chemin et qui m'avait ramené vers ces pissenlits que je me suis amusé à ressouffler. Et en fait, ce qui est génial sur ce chemin, c'est qu'on se détache de cet esprit de sérieux, je trouve, qui nous ramollit un petit peu dans la vie. Hein.
Mais c'est clair, en tout cas, qui nous bloque, je dirais. Hein. C'est une sorte de corset. David Le Breton, lorsque l'on marche, bien souvent, on peut être seul, on peut être à deux, mais on n'est pas, on est éloigné, je dirais, du regard des autres. On peut se permettre plein de choses.
Oui, vous avez raison. Je pense que la marche est une sorte de retour au jeu de vivre, comme l'évoquait tout de suite votre invité Julien. On retrouve en effet des attitudes d'enfance, précisément parce qu'on est délié aussi de tout de toute la gravité en quelque sorte de nos vies quotidiennes, de nos routines, de toutes les activités qu'on a à faire. Donc comme on a l'esprit qui bat la campagne, comme je disais tout à l'heure, on a envie de jouer, on a envie de chanter, on a envie parfois d'esquisser un pas de danse, de courir, de parler aux animaux, etc. Et on retrouve aussi, d'ailleurs, là, pour faire lien avec Flavien, on retrouve une sensorialité qui est complètement différente de celle de la vie ordinaire. C'est un autre régime de nos sens qui est en jeu, c'est-à-dire on n'est plus, par exemple, dans la vue comme à Paris, par exemple, où on doit en permanence être vigilant, être en alerte pour ne pas se faire écraser ou se faire heurter par une trottinette électrique, par exemple.
Ce qui est l'actualité. Tout à fait.
Voilà. Mais là, quand vous marchez sur un sentier, vous êtes dans la contemplation du monde, vous êtes dans la beauté du monde, vous vous arrêtez devant vous arrêtez émerveillé devant une colline, devant la lumière, etc. Vous êtes dans un monde d'odeurs qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons comme citadin. En ce moment, il y a énormément de tilleuls, mais il y a aussi plein d'autres arbres, évidemment, ou fleurs dans la forêt. Vous retrouvez aussi le goût du toucher, par exemple, qui est complètement neutralisé dans les villes. On a envie de toucher absolument à rien, alors que quand vous êtes sur le sentier, vous avez parfois envie de toucher l'écorce des arbres, de palper une feuille qui vous paraît d'une contexture un peu étrange, pour ramasser une pierre, pour la mettre sur un cairn. Vous plongez vos mains dans l'eau froide parce que vous avez chaud, etc. Vous voyez, la marche est aussi une forme de célébration des sens. Et je pense que c'est aussi en cela qu'elle est proche de l'enfance.
Et c'est intéressant, Flavien, parce que j'écoute, en fait, je suis en train de faire signe à quelqu'un de mon équipe en disant « Toi et moi, on va aller marcher ». Parce que c'est vrai que ça nous ferait un bien fou. Flavien, c'est super quand je vous écoute, quand j'écoute en fait tout le monde là aujourd'hui, et j'y pensais, c'est cette notion de liberté, Flavien. C'est dans la rue, on va pas commencer dans la ville à aller toucher l'écorce d'un arbre. Effectivement, on n'en a pas spécialement envie, mais tout le monde nous regarderait comme si on était un peu timbré. On va pas aller mettre les mains dans une. Enfin, je veux dire, on est libre. Voilà, on n'a pas le regard des autres. Je ne sais pas si je suis très clair. Il y a un côté, on s'en fout en fait, parce qu'on se dit que s'il y a d'autres fous comme nous sur le chemin, en fait, ils comprendront pourquoi on est comme ça.
Oui, exactement.
Voilà.
Et on redistribue en fait les priorités. Et puis d'ailleurs, quand on croise un autre marcheur, on le voit comme un miroir de nous-mêmes, quoi. On comprend sa démarche, on comprend tout ça. Et en plus, on est en permanence de passage. Donc, s'il y a parfois un blocage qui nous empêche de faire certaines actions, qui est le fait de se dire les gens vont nous revoir, ben là, ils ne nous revoient pas. Ouais. Donc, on avance.
Oui, et c'est ce qui peut expliquer effectivement cette légèreté.
Exactement.
Parce qu'il n'y a pas d'engagement, en fait. Il n'y a pas la gravité d'un engagement, même dans les rencontres que l'on fait, en fait. Elles sont fugaces, mais elles laissent une trace, Flavien.
Elles laissent une trace, effectivement.
Ouais. Et pourtant, elles peuvent être très fugaces.
Voilà.
Est-ce que les gens sont tous bien élevés sur les chemins ? Est-ce qu'on se dit bonjour ?
Ah oui, les gens disent bonjour. Je voudrais pas m'apitoyer sur un ou deux qui n'ont pas été bien élevés, mais dans la grande majorité des cas, les gens vous donnent de l'eau et vous échangez un brin de discussion avec eux. Moi, j'ai par exemple fréquenté les campings aussi, et puis là, on voit des gens qui sont dans la même démarche de passage, donc on discute beaucoup.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir emmenés sur vos chemins, Flavien. Parce que c'était extrêmement intéressant. Je rappelle donc votre livre, La randonnée le long de la méridienne verte aux éditions Favre. C'était super intéressant d'être avec vous. On y
Merci
était.
À vous.
Voilà. Et à bientôt sur l'antenne d'RTL. Il est 14h. Merci vous aussi. Il est 14h59. Et voici Olivier Bois qui va nous donner les informations sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
On marche aujourd'hui jusqu'à 15h30 sur RTL. Tiens, on doit avoir la dernière chanson de Ben Mazuet. Je me tourne vers notre ami Sébastien Dudouis, notre technicien réalisateur.
Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire.
La dernière chanson de Ben Mazuet que l'on adore et où il vante effectivement les mérites de la marche. On accueille tout de suite le philosophe Roger Paul Droit qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Flavie Flamand.
Merci d'être avec nous Roger Paul Droit. Et dites-moi, les philosophes, ils n'ont pas attendu 2021 pour se dire que la marche, ça pouvait servir à quelque chose. Ils marchaient, nos philosophes ?
Bah, ils marchent depuis l'Antiquité, pratiquement jusqu'à nos jours. Pas tous, mais dans l'Antiquité, vraiment tous. Être un philosophe, c'était aussi penser en marchant. Socrate n'arrête pas de déambuler dans les rues tout en dialoguant. Il y a une scène très drôle dans un dialogue de Platon, Protagoras, où il y a un type qui enseigne, il s'appelle Protagoras, et il est suivi par les gens, mais il fait les 100 pas. Alors il tourne, suivi par sa petite cour, comme ça les gens vont, viennent. Aristote, son école s'appelle celle des péripatéticiens. Mmh. Péripatéine, ça veut dire se promener à pied. Mmh. Voilà, autrement dit, il y a une très vieille habitude culturelle, mais ensuite, elle s'est poursuivie avec des individus. Cette fois, ce n'est plus une habitude de tous les philosophes. Mais Montaigne dit qu'il ne peut penser qu'avec ses jambes. Hobbes, qui est un philosophe anglais de l'âge classique, de la philosophie politique, on dit qu'il avait un encrier dans sa canne, dans le pommeau de sa canne, pour noter ses idées dans ses promenades. Rousseau vient de Genève à Paris et puis dit qu'il ne peut véritablement avoir d'idées qu'à la condition de marcher. Même Marx.
Ouais.
Marx, on ne sait pas assez. Ouais. Son gendre, Paul Lafargue, raconte qu'il traversait comme ça des grandes parties de Londres. Nietzsche, bien sûr, autour de Sixte Maria. Enfin bref, on n'a que l'embarras du choix.
Alors, c'est intéressant, tout à l'heure je disais, est-ce que marcher finalement, ça n'est pas simplement mettre un pied devant l'autre, mais c'est ordonner ses pas, mais aussi ordonner ses idées. J'ai le sentiment aussi, Roger Paul Droit, que marcher, c'est quelque part faire le vide et laisser place à la pensée. Qu'est-ce qui nous fait marcher, nos jambes ou notre esprit ?
Ah, je pense que c'est évidemment notre cerveau qui nous fait marcher. C'est lui qui commande aux jambes. Alors là, il y a deux explications possibles. Il y en a une qui est que finalement, en marchant, les automatismes libèrent ce qu'on appelle dans le cerveau le cortex frontal. Et finalement, le fait de mobiliser ces automatismes pour avoir une marche régulière ou longue, eh bien, ça libère des possibilités de pensée. Ça, c'est ce que dit mon ami et neurologue Yves Agide, fondateur de l'Institut du cerveau. Et il dit finalement, c'est parce qu'on marche qu'on pense mieux. c'est pas tout à fait la même, avis. Là, je dis pas que c'est faux du tout, mais, il y a une parenté tout à fait profonde entre la marche et la pensée dans le mécanisme même.
Voilà.
Vous voyez, marcher, c'est quoi ? Essayez de vous mettre debout, vous bougez pas. Vous voulez commencer à marcher, si vous faites un seul pas, vous allez soulever un de vos pieds, commencer à amorcer une chute. Et si vous posez juste un pied, bah vous allez être immobile. Pour commencer à marcher, il faut recommencer la chute. La chute, la marche, la marche, c'est une sorte de chute que l'on provoque, continue, empêche, répète constamment. Et il me semble, et c'est là la petite idée que j'avais eue dans le livre « Comment marchent les philosophes », il me semble que la pensée fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que pour commencer à réfléchir, il faut déstabiliser nos certitudes. Il faut commencer à secouer un peu nos assurances, à les mettre en cause, à les faire tomber, et ça fait un peu peur. Et puis, on essaye de se rattraper, avec des hypothèses, et on recommence. Voilà. Et du coup, quand on dit qu'on avance dans un raisonnement, quand on avance dans une analyse, quand on parle de la marche d'une déduction, de la marche d'une idée, de la marche de l'histoire, même de la marche de l'humanité, eh bien, je ne crois pas que ce soit simplement des manières de parler, des métaphores, des choses comme ça. Il y a une connexion organique et très profonde entre le fait de marcher, qui est finalement la bipédie humaine, c'est une singularité absolue, on est la seule espèce qui déambule comme ça, et puis notre pensée qui, je crois, a les mêmes structures, si vous voulez, les mêmes mécanismes.
C'était passionnant, effectivement. Je n'avais jamais pensé à l'épreuve de la chute, ou en tout cas du vertige de la pensée. Et c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Roger Paul Droit. Vous avez parlé de votre ouvrage. On le retrouve aux éditions Paulsen, « Comment marchent les philosophes ?» Et puis « Le sens des limites » aussi, coécrit avec Monique Atlan, aux éditions de l'Observatoire. Roger Paul Droit, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.
À bientôt.
RTL.
Terrible. Bon après-midi sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Alors, on débat dans ce studio avant d'accueillir Caroline sur cette antenne sur la marche. Julien Charles, vous êtes notre invité avec David Le Breton aussi. Une réaction à ce que disait Roger Paul Droit, Julien Charles, et ensuite on en parlera avec David Le Breton.
Non, je trouve ça effectivement très intéressant. Moi, je trouve qu'effectivement, j'atténuerais peut-être le. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vécu, moi, le côté analyse et le côté raisonnement. Mon corps plutôt a repris du pouvoir. Et en fait, tout ce processus créatif, ces nouvelles idées qui ont jailli, elles ont jailli du plus profond de moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu plus intelligent, mais je suis devenu plus fécond. C'est-à-dire que j'ai retrouvé une forme d'intuition. Et donc, je me reconnais plus dans l'intuition que dans le raisonnement. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Parce que votre démarche était différente. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est que les choses montent naturellement. Elles ne sont pas forcément appréhendées. Même les réflexions,
elles reprennent un rythme biologique et plus cognitif.
J'entends. Je vois. David Le Breton.
Oui, moi je pense que marcher, c'est retrouver l'unité finalement.
C'est retrouver, pardon, vous a mal entendu ?
Oui, je pense que marcher, c'est retrouver une unité.
D'accord.
C'est-à-dire que nous n'avons pas d'un côté un esprit et de l'autre côté un corps, mais nous sommes tout entiers dans notre présence au monde. D'où des formules bien connues, par exemple dans la langue française, qui sont très belles en même temps. Quand on dit « il faut avoir les pieds sur terre hein, », ou encore on dit « il ne faut pas être à côté de ses pompes », etc. C'est bien une manière de dire justement que la marche est une manière de nous remettre au monde, finalement, avec tous nos sens, avec toute notre pensée, mais pas sous la forme du c'est une manière finalement de restaurer, de guérir la coupure entre guillemets qu'il y a souvent en nous entre justement ce monde de l'intelligence et ce monde physique. On retrouve une unité d'existence. Voilà.
Elena nous écrit « J'ai toujours aimé marcher, mais suite à un deuil, c'est devenu un besoin pour être seule avec mes pensées. C'est ce qui m'a aidé à me reconnecter avec le monde, à ne pas être dans le chagrin permanent. Aujourd'hui, quand j'ai un problème ou une question, marcher m'aide souvent à faire le point. » On accueille Caroline sur cette antenne. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous êtes coach, conférencière pour les personnes qui souhaitent préparer leur voyage au long cours. Vous avez un compte Instagram, un blog, un Facebook qui s'appelle Pieds Libres. Vous vivez dans le Jura. Pour vous, la marche, c'est la vie. Quand Elena nous écrit que c'est devenu pour elle aujourd'hui un automatisme, c'est-à-dire c'est comme une sorte de médicament naturel à portée de main. C'est vraiment ça, les vertus de la marche ?
Alors moi, c'est pas devenu un automatisme chez moi, mais effectivement, c'est un médicament pour moi. Donc, j'ai découvert ça en fait quand j'étais en Turquie à peu près un an après le départ.
En 2011, vous avez fait en 2011, vous avez fait un tour du monde à pied, hein, c'est ça.
Oui, voilà, c'est ça. Je suis partie pour un tour du monde à pied qui a duré 8 ans. Et en fait, j'étais pas du tout une marcheuse moi à la base. Hein. J'avais jamais fait de randonnée, à part des petites randonnées à la demi-journée, mais rien de très significatif. Pareil pour le bivouac. Et en fait. Quand j'ai décidé de faire ce voyage, pour moi, ça s'est naturellement imposé pour des raisons écologiques, déjà, de reconnexion à la nature, etc. Et comme j'aime pas le vélo, je suis partie sur la marche. Et là, ça a été... Pour moi, c'était vraiment... Vous parliez tout à l'heure, cette recherche de liberté, en fait, c'était ça, puisque quand on marche, on est seul avec nous-mêmes, en fait. Et reconnexion à soi, la liberté, c'est quelque chose qui est très important, et reconnexion à la nature aussi.
Vous expliquez qu'en fait, au bout de 2 semaines, il s'est passé quelque chose et qu'il faut le vivre pour le croire. Est-ce que vous pouvez trouver les mots pour nous expliquer cette sensation ?
Alors, c'est plus sur le voyage au long cours, effectivement. Je pense que dès qu'on dépasse les 2-3 semaines, pour moi, un voyage au long cours commence à partir d'un mois à peu près. Quand c'est plus un week-end, c'est plus des vacances. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et le fait qu'on soit à pied dans un cheminement comme ça, il y a vraiment effectivement toute cette reconnexion à soi. Et... c'est pas facile à expliquer. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais, dès qu'on dépasse un petit peu ce système de vacances, on est dans autre chose. On est vraiment dans une découverte, du monde, de soi.
Devient partenaire avec son corps ? Parce qu'on l'oublie.
Comment ?
Notre corps. Est-ce qu'on devient partenaire avec son corps ? On l'oublie corps. On l'oublie alors, ou alors on le subit. Parfois on est là, on est crevé, on a mal, on a des. Est-ce que là, tout à coup, en fait, notre corps devient notre allié ?
Ouais, parce qu'on l'oublie pas du tout, hein, mais au contraire, on apprend à le ressentir. En fait, souvent, moi, je me rends compte qu'avant de partir, je faisais pas forcément attention à mon corps, je faisais pas forcément attention à ma fatigue, etc. Et là, en fait, quand on chemine à pied, on est beaucoup plus attentif. En fait, on a tous ces sens qui se remettent en éveil. Moi, ça peut être aussi bien la vision, par exemple. J'ai développé des facultés visuelles, des choses que je voyais pas avant et que je vois maintenant parce que du coup, le cheminement, cette lenteur qu'on a dans la marche va faire en sorte que tous nos sens vont être en alerte. Après, on va être beaucoup plus conscient à soi, justement, de la fatigue. Parce que si on marche et qu'on est super fatigué, au bout d'un moment... on va s'épuiser, donc il va falloir aussi être à l'écoute de son corps et à se dire, là, je vais faire une petite pause. Mmh. Je vais manger un bout et après, je repars, etc. Donc, on n'oublie pas son corps. Au contraire, on s'y reconnecte et à ses ressentis aussi.
Vous allez bientôt repartir ?
Oui.
Il paraît que vous attendez avec une impatience.
Oui, parce que je suis revenue en 2019 et après, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Et moi, quand je suis chez moi, en fait, je ne fais pas forcément l'effort d'aller marcher ou d'aller marcher comme ça de temps en temps, des petites balades autour de chez moi avec la voisine ou ma maman. Mais là, j'ai décidé, je suis toute excitée parce que donc, je suis du Jura et je suis invitée à l'éloge du voyage lent. Un festival dans le Larzac. Et donc, j'ai décidé d'y aller à pied. Je me suis dit, quoi de mieux que d'aller au festival de l'éloge du voyage lent à pied. Et donc, je vais mettre un mois, je vais passer par les GR. Et là, je retourne. Et là, ça me procure une joie phénoménale.
Vous restez avec nous parce que vous avez parlé de bivouac. On a quelques questions à vous poser. À tout de suite sur RTL.
Oui. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. À 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Et on parle du plaisir de la marche. On a tous envie de bouger là. Là, ça frétille, là, je peux vous le dire, sous le bureau. Caroline, vous. Qu'est-ce que. J'ai dit un truc. Non, vous cherchez si ça frétille. Pardon. Non, enfin, bon, tout ça pour dire que ça donne envie d'aller marcher, quoi. Caroline, pardon. Vous avez bivouaqué ?
Oui.
Femme seule ?
Alors, j'étais la moitié de mon voyage toute seule et la moitié de mon voyage accompagnée.
Est-ce que c'est tranquille ? Parce qu'on a des questions justement qui nous arrivent sur les réseaux sociaux et qui nous demandent si effectivement on peut marcher seule quand on est une femme.
Oui. Je pense pas qu'il y ait vraiment de différence à être une femme ou un homme sur le chemin. Hein.
Non, mais on parle de vulnérabilité, on parle de. Ça fait partie des questions. Voilà. Est-ce qu'on peut marcher seule quand on est une femme ? Est-ce qu'on peut bivouaquer, dormir sous la tente ?
Oui, tout à fait, ouais. Je pense pas qu'on soit plus vulnérable en étant une femme qu'un homme. Au contraire, moi, je trouve que donc, c'était la deuxième partie de mon voyage où j'étais seule. Et justement, comme tout le monde pense qu'une femme, c'est beaucoup plus vulnérable qu'un homme, bah, du coup, il y a cette petite solidarité qui se met en place. Et quand les gens ils voient une femme arriver toute seule, moi, j'étais majoritairement seule au Mexique. Donc là, les gens, ils font mais t'es toute seule, tu vas dormir où? Et donc, du coup, j'étais beaucoup invitée.
Donc, on protège plus les femmes, d'accord.
Ouais, ça crée des rencontres. Ouais.
Est-ce qu'il faut se préparer à une marche, Caroline? Bon, vous êtes partie 8 ans, donc évidemment, à un moment donné, vous aviez un entraînement quotidien, mais sinon, est-ce que ça nécessite d'être prêt pour marcher? Ou est-ce que tout le monde, selon vous, peut marcher?
Moi, je ne me suis pas préparée avant de partir. Hein. C'est-à-dire que moi, je marche depuis que j'ai 2 ans, et je trouve que c'est tellement naturel que je ne voyais pas vraiment la nécessité de se préparer à marcher, parce que justement, la marche a cette... Cette liberté, en fait, que si on est fatigué, et moi, donc, j'avais tout mon matériel avec moi, hein, je marchais pas d'une destination A à B, donc, du coup, j'avais ma maison sur le dos, donc, il n'y a pas besoin d'entraînement, c'est-à-dire qu'on marche, je marche, et quand je suis fatiguée, je m'arrête, tout simplement. Et je pose ma tente, si je peux plus avancer, je pose ma tente dans un endroit sympa, et voilà.
David Le Breton, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, c'est en poche aux éditions donc Métellier. Dites-nous, ça nécessite effectivement un entraînement, selon vous, la marche?
Tout dépend.
Ou même un entraînement de l'esprit, je dirais, pardon, physique et,
oui,
et psychologique.
Ah bah oui, il faut être capable d'un lâcher prise qui peut aller de quelques heures à quelques mois, voire quelques années. Évidemment, c'est donc il faut se défaire d'un certain nombre de contraintes qui sont liées à nos responsabilités sociales, familiales, professionnelles, amicales et autres. Et ça exige effectivement un certain dépouillement de l'esprit et en même temps une préparation, sachant que la préparation de la marche, elle est aussi partie intégrante du bonheur de la marche. Hein. Une marche, elle existe avant, dans la préparation, dans tous les rêves qu'on en a. Elle existe pendant, avec toutes les découvertes qu'on fait, et puis après, bien entendu, parce que elle va laisser une trace de mémoire, une trace de liberté, de souveraineté. Rarement dans sa vie, en effet, on est autant libre que sur les sentiers, et à un rythme qui n'appartient qu'à soi, où on s'arrête pour dormir quand on en a envie, on marche vite ou on marche lentement selon les jours, on fait des rencontres ou on n'en fait pas, mais c'est aussi finalement chacun de nous qui décide de s'attarder à une rencontre ou de la réduire. Rares sont les moments de liberté comme la marche nous les donne.
Et si peu coûteux, hein.
Et qui ne coûte rien en plus. Oui,
non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une richesse à la portée de tous.
C'est, hein, tout le monde, oui.
Ah, ouais.
Ah, oui. Évidemment, démocratique à tous égards.
En plus,
démocratique,
effectivement,
à travers les rencontres qu'on fait.
Ouais.
Il y a un mélange des populations, il y a un mélange des âges, il y a un mélange des classes sociales.
Julien Charles, vous avez fait beaucoup de rencontres?
Oui, alors c'est un chemin de rencontres à Compostelle, et en fait j'ai effectivement fait des rencontres, beaucoup de rencontres des habitants du village, surtout en France, et en fait aucune ne m'a laissé indifférent. En fait, il y a eu des rencontres émouvantes, il y a eu des rencontres éclairantes, questionnantes, et on a eu des irritantes aussi même parfois, et en fait chacune des rencontres, et ben elle m'a fait avancer. Moi je pense à Robert, 83 ans, que j'ai rencontré au début du voyage. Il m'a vu arriver complètement dépité, j'étais fatigué, plaintif, enfin vraiment la personne que vous voulez vraiment pas écouter.
Ouais, le mec qu'on évite, quoi.
Ouais, vraiment, c'est ça. Et en fait, il m'a accueilli avec une générosité, et il m'a glissé deux messages, en fait, en m'écoutant gémir. Il m'a dit profite de ton voyage pour t'ouvrir aux autres. Et ensuite, il m'a dit mon chéri, puisqu'il m'appelait mon chéri avec un accent du sud. On peut gâcher sa vie si on ne décroche pas d'un mauvais passé. Et en fait, ces simples paroles, elles m'ont accompagné pendant tout le chemin. Et en fait, ce qui est important, c'est ce que les gens transmettent. En fait, enfin, pour moi, ça permet d'avancer. Et c'est certainement grâce à tous ces visages, tous ces sourires et tous ces regards que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et souvent, ces gens m'accompagnent. Et il y a aussi toutes ces rencontres du passé qui reviennent. Vous savez, ces gens dont vous n'avez pas saisi les messages. Et ce calme, cette nature, fait que, voilà, vous avez des visages du passé qui remontent et vous accompagnent. Voilà, vous tiennent la main.
Il y a eu un avant et un après, vous, hein?
Oui, il y a eu un avant, effectivement un après. Aujourd'hui, j'ai un regard plus distancié sur la vie, l'amour, les autres, et puis j'ai rééquilibré ma vie. Je vous parlais d'allègement tout à l'heure, parce qu'on arrive tous avec une vie, en tout cas pour beaucoup de gens, avec une vie encombrée, avec des choses justement qui nous alourdissent. Et il y a un symbole qui est assez beau. et je pense qu'il va être intéressant pour les auditeurs, c'est le sac à dos. Parce qu'en fait, dans le sac à dos, à un moment, sur le chemin, il faut trouver un équilibre. Comme dans la vie, il faut trouver un équilibre entre ce qu'on peut porter, ce dont on a besoin, et ce qui nous réconforte. Voilà. Donc moi, en fait, j'avais fait 13 kilos, j'avais des trucs qui me servaient strictement à rien, comme un ordinateur ou une recharge de portable solaire, 1 kilo qui me servait strictement à rien. Donc voilà, donc j'ai tout renvoyé à Saint-Jean-Pied-de-Port, 3 kilos, et aujourd'hui, c'est devenu un art de vivre. Dès que je me sens alourdi, je m'allège.
Merci beaucoup, Julien Charles, d'avoir accepté mon invitation. Compostelle thérapie quand un chemin se transforme en cheminement, c'est aux éditions Larousse. Merci.
Merci, Flavie.
À bientôt. Merci beaucoup, Caroline. On vous souhaite plein de bonnes choses et on rappelle donc votre page Insta Pied Libre. À bientôt Caroline et bon festival cet été, bonne marche. Merci beaucoup David Le Breton d'avoir accepté également mon invitation. Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, c'est en poche aux éditions Metteny. Merci beaucoup, à bientôt David.
Merci à vous.
Ça en fait des merci. Et vous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jean-Marc pour le message qu'il nous a laissé en disant encore une excellente émission. Eh bien oui, ça nous fait plaisir. On se retrouve demain dès 14h30 sur RTL. On parlera d'amour. Youhou ! Voilà, d'ici là, prenez grand soin de vous, marchez, allez faire un tour, mais toujours avec RTL dans les oreilles. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
RTL, on est fait pour s'entendre.